explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que je vais plus regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Elle est la détentrice d'un record qui en a laissé plus d'un perplexe. Partie d'Angleterre en juillet 2015 pour rejoindre la mer de Weddell en Antarctique, elle est passée par l'océan Indien à l'aller et par l'Afrique au retour. Pas moins de 96 000 km en 10 mois. L'exploit a été largement relayé et commenté par les journaux, mais la détentrice de ce record n'en a jamais eu vent. Et pour cause, c'est une sterne d'Arctique, un petit oiseau d'à peine 100 grammes que des chercheurs de l'université de Newcastle avaient équipé d'un géolocaliseur. C'est ainsi qu'ils ont pu suivre le long périple du volatile, étape par étape. À peine 100 grammes et 96 000 km parcourus en 10 mois. Les voyages dont certains oiseaux sont capables suscitent l'admiration et aussi beaucoup d'interrogations. Pourquoi vont-ils si loin pour revenir quelques mois plus tard? Comment font-ils pour trouver leur route de jour comme de nuit? Pour survivre à la traversée de déserts ou d'océans, cet après-midi, nous partons à la découverte de ces infatigables voyageurs du ciel.
J'ai bien souvent rêvé que je volais.
Daniel Fievé.
Que j'étais un oiseau et que je batifolais en plein ciel, au-dessus de tout.
Sur France Inter.
Oh, ce n'est plus un rêve, je suis un oiseau.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Maxime Zucca.
Bonjour.
Vous êtes ornithologue, chargé d'études naturalistes au sein de l'Agence régionale de la biodiversité et vous avez écrit « La migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel » aux éditions Ouest France. Nous sommes donc très heureux de partir avec vous à la découverte des oiseaux migrateurs. Et comme tous les jours, amis auditeurs, vous pouvez adresser vos questions à notre invité via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous voyagerons léger avec Nance et Moots, les deux globetrotteurs de la série Nu et culotté de France 5. C'est plus particulièrement au Québec qu'ils nous emmèneront dans le plus simple appareil. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne et préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued.
C'est un plaisir des yeux, mais c'est aussi un plaisir des oreilles. Parce que on entend les oies cendrées qui discutent entre elles, défense de territoire entre les couples, moi j'appelle ça aussi des messes basses. Il y a un petit cri d'alerte de poule d'eau là, un petit cri à la fois d'alerte et de contact, de méfiance entre les couples. Il y a une cigogne qui vient de se poser sur le nid là, ça c'est sympa. Les cigognes sont en train de couver et elles reviennent d'Afrique, hein. Elles reviennent du sud de l'Espagne, du Portugal, puis surtout d'Afrique de l'Ouest, hein, du Mali, du Niger, de Mauritanie. Et ils commencent là depuis une petite quinzaine de jours leur couvaison. Hein. Donc il y a un des adultes qui est sur le nid couché, on a l'impression que c'est un poussin, mais c'est la tête qui dépasse, c'est un adulte qui couvre. Et le deuxième adulte qui est à côté, qui surveille le nid. Il y a un cri de décollage d'oies cendrées là. Ouais. Les deux oies qui sont là-bas à gauche, ils lancent le cri de décollage pour le mâle. La femelle va répondre, on va attendre. Alors il faut que la femelle réponde, si la femelle ne répond pas, le couple ne va pas décoller, hein. Les couples sont formés pour la vie. Donc il lance d'abord un cri de décollage et voilà, ça y est, ça décolle. Madame a été d'accord, donc les deux décollent. Ça c'est sympa.
Décollage d'oies cendrées, nous étions en baie de Somme avec l'ornithologue Philippe Carouette. La baie de Somme, c'est le paradis des ornithologues, Maxime Zucca.
C'est un des paradis des ornithologues, effectivement, parce qu'on a ce parc du Marcanterre qui a fait l'objet d'une protection depuis une bonne trentaine d'années, je ne saurais pas dire la date exacte, parce que comme beaucoup de sites littoraux avec de grands estuaires, ils constituent des havres de halte migratoire pour beaucoup d'oiseaux qui vont trouver de quoi se nourrir sur les strands, dans les vasières. Et puis sur tous les milieux arrière littoraux, et aussi parce que le long des côtes, les côtes constituent un repère aussi beaucoup pour les oiseaux migrateurs, et donc ils vont s'y concentrer.
C'est un des nombreux repères pour effectuer ces longs voyages. On va voir avec vous qu'ils ont plusieurs techniques, hein, qu'ils allient d'ailleurs pour s'y retrouver sur ces très longs trajets. Alors aujourd'hui, ça nous paraît absolument évident, hein, que les oiseaux qu'on ne voit plus en hiver migrent. Au 18e, ça on l'apprend dans votre livre, hein, en vous lisant, au 18e on pensait que les hirondelles disparaissaient au fond des étangs. On n'avait pas compris en fait qu'elles partaient de loin, ces hirondelles.
Non, ça paraît étonnant, ça paraît pour nous complètement évident. Il y a aussi une époque où on pensait que les oiseaux se transformaient en hiver. Qu'un oiseau, qu'une hirondelle devenait un merle, par exemple. Donc effectivement, l'hypothèse que mais où vont ces hirondelles, on les voyait tourner autour des étangs en septembre, de plus en plus nombreuses, se rassembler, puis bah, pourquoi pas après tout, elles pourraient bien hiverner au fond des étangs, les poissons descendent dans la vase pour hiverner, pourquoi pas les hirondelles?
Pourquoi pas? Enfin, en réalité, elles vont où ces hirondelles finalement?
Et en réalité, elles partent, elles quittent les latitudes nordiques, elles vont migrer le long des côtes et à l'intérieur des terres d'ailleurs, traverser la chaîne des Pyrénées, traverser l'Espagne, éviter un petit peu les traversées de mer en tout cas, préférer Gibraltar ou le Bosphore, comme la plupart des oiseaux migrateurs qui évitent la mer autant qu'ils le peuvent, passer l'énorme obstacle que constitue le désert du Sahara et aller, alors pour nos hirondelles à nous, elles vont s'arrêter la plupart en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, dans les Guinées, au Libéria. Les hirondelles de Suède, par exemple, voire de Russie, elles migrent sur de l'autre côté de l'Afrique et vont jusqu'en Afrique du Sud.
Ah oui, c'est-à-dire que celles qui partent de plus loin vont finalement plus loin en Afrique. Ça s'explique, ça?
Ça s'explique parce qu'en fait, elles sont beaucoup moins pressées de revenir parce que le printemps arrive plus tard en Russie, en Suède, et elles n'ont pas besoin de revenir avant le mois de mai, alors que les hirondelles chez nous, en France, par exemple, ont besoin de revenir en mars pour faire coïncider l'émergence des insectes au printemps avec la période d'alimentation de leur nichée. Donc les hirondelles qui nichent en Suède, elles peuvent se permettre d'aller plus loin, puis de prendre leur temps, de profiter tout au long de leur balade printanière de remontée, de l'explosion des ressources printanières en Afrique du Nord, en Europe du Sud, en Europe centrale, etc. Et c'est vraiment ça qu'il y a derrière la migration, c'est comment profiter au mieux dans l'espace des ressources alimentaires au meilleur moment. Ouais.
Toute la question, c'est de savoir comment elles le savent. Comment elles le savent, les hirondelles qui sont le plus au nord, qu'il faut qu'elles peuvent se permettre d'aller plus au sud. On en a une idée, ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces hirondelles?
Alors, on peut basiquement appeler ça une sorte d'instinct. Hein. Ça va paraître un petit peu trivial, mais effectivement, elles n'en savent rien spontanément, surtout que la plupart des oiseaux, donc ces hirondelles, mais on peut aller encore plus loin là-dedans, on peut imaginer le coucou. Par exemple, le coucou, c'est un oiseau qui va jamais voir ses parents, puisque ses parents pondent dans le nid des autres oiseaux, donc ils n'élèvent jamais leurs jeunes, et pourtant les coucous migrent jusqu'en Afrique tout seuls. Donc ils n'en savent rien, personne ne leur a jamais dit, mais par contre, il y a un besoin de migrer très fort en eux, et qui est transmis uniquement génétiquement. Ensuite, toute la question, c'est comment transcrire, comment traduire cette information génétique de migre par là, combien de temps de nuit, etc., le transcrire en déplacement réel. Ça, c'est une autre affaire.
Alors, on parle souvent des oiseaux migrateurs comme s'il y avait une opposition avec des espèces qui seraient exclusivement sédentaires. Or, ça se passe pas comme ça. La frontière est beaucoup plus floue, on s'en aperçoit en vous lisant.
C'est ça. Ça, c'est clairement des facilités sémantiques. Tous les oiseaux sont migrateurs avec deux extrêmes qui est les migrateurs stricts, c'est-à-dire ceux dont vraiment tous les individus d'une même espèce migrent, et puis à l'inverse de ce gradient, des oiseaux qui sont sédentaires ou quasiment sédentaires, c'est-à-dire qui ne vont quasiment pas se déplacer de l'année. Mais même chez ces sédentaires, on a des déplacements certaines années de disette alimentaire. Ouais. Et puis il y en a pour lesquels on ne sait rien, notamment les oiseaux tropicaux. On ne sait pas encore beaucoup quels sont leurs déplacements, mais ils se déplacent au gré des saisons des pluies, au gré des fructifications, etc.
Et puis ça change aussi en fonction des circonstances. Par exemple, les cigognes qui normalement vont jusqu'en Afrique, on en observe de plus en plus qui élisent domicile en France et qui n'en partent pas. Pour quelles raisons?
Oui, alors il y a deux types de changements. Il y a les changements, on va dire, directionnels, avec on a des hivers de plus en plus doux, par exemple, ou de la nourriture de plus en plus présente en hiver. Alors, dans le cas des cigognes, c'est un petit peu les décharges. Mmh. Mais par exemple, il y a d'autres oiseaux qui vont être favorisés par l'essor du nourrissage aux mangeoires en hiver. Donc, à la fois des hivers plus doux et plus de nourriture, ça va sélectionner des comportements, ça va sélectionner des individus qui ne migraient pas, qui avaient un seuil de déclenchement, un seuil génétique de déclenchement du départ en migration, disons, inférieur à d'autres individus. Ouais. Ça, c'est vraiment de la sélection génétique. Ensuite, on a aussi des oiseaux qui vont migrer que certaines années. Mais ça, c'est des cas particuliers d'oiseaux qui dépendent de manière générale de ressources très fluctuantes. Par exemple, des animaux qui vont se nourrir de lemmings. Les lemmings, c'est rongeurs qui explosent certaines années, puis après, il n'y en a plus du tout. Donc les années à lemmings, les hiboux, par exemple, ou les buses qui s'en nourrissent ne vont pas partir en migration. Et puis lorsqu'il n'y a plus de lemmings, bah là, elles font toutes une grande migration. Donc c'est un peu des migrations opportunistes, c'est du nomadisme.
C'est ça, c'est la disette qui déclenche le besoin d'aller voir ailleurs, là où il y a plus de nourriture. Ça n'est pas forcément inclus dans leur gène. Alors évidemment, pour entreprendre ce long voyage, il faut quand même faire des réserves. Et là aussi, ça c'est prodigieux, mais des fois ce sont des tout petits oiseaux qui font quelques dizaines de grammes, qui partent pour des périples de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, mais ils sont capables de faire de grosses réserves avant de partir.
Eh bien, tout à l'heure, là, au début du reportage en baie de Somme de Philippe Caruette, il y avait un petit oiseau qui chantait, qui s'appelle le phragmite des joncs. Ouais. Et celui-ci, il est assez incroyable, parce qu'il pèse 10 grammes, hein, pas plus. Petite boule brune avec un large sourcil beige qui vit et qui niche dans les roselières. Donc on le voit peu, on le connaît peu, mais il est très abondant dans ces habitats-là. Et il va hiverner en Afrique de l'Ouest. Et avant de partir, il fait un premier trajet pour aller s'arrêter, faire une halte migratoire dans les grands estuaires ou dans les grandes roselières de l'Ouest de la France ou de l'Angleterre.
Donc c'est là où on trouve les roseaux, les roselières.
Les roselières, ce sont là, c'est les massifs de roseaux au bord des étangs, dans les grandes baies, dans les grands estuaires. Et dans ces roseaux vivent des petits animaux qui s'appellent les pucerons des roseaux, dont se nourrit en grande quantité ces petits phragmites. Alors ces pucerons, ils sont pas là tout le temps, ils sont surtout là fin juillet, début août, mais quand ils sont là, il y en a tellement qu'ils ont absolument pas à chercher leur nourriture, c'est libre service. Et en une semaine, les phragmites, disons 10 jours, nos phragmites vont être capables de doubler leur poids presque. Ils passent de 10 à 20 grammes. Et quand on les capture à cette époque, parce qu'on les capture parfois pour les baguer et suivre leur migration, quand on les capture, c'est des vrais petits poulets bien engraissés, hein. On voit plus une trace, leur peau est plus rose, elle est jaune. Et donc ils ont doublé leur poids, ce qui peut leur permettre de faire un trajet, un vol direct de plusieurs milliers de kilomètres sans du tout avoir reconstitué des réserves. Ils ont fait le plein de carburant pour 2-3 000 kilomètres.
Ouais. Difficile d'imaginer ce qui se passe aussi dans la tête, hein, d'un oiseau lorsqu'il regarde la Terre depuis le ciel lors de ses longs voyages. Certains auteurs s'y sont essayés, et notamment l'écrivain Richard Bach dans Jonathan Livingstone, Le Goéland.
Je vois partout, dans toutes les directions. J'ai découvert des choses qui sont de nature à transformer notre vie. Tout un monde étranger au nôtre. Aucun de nous n'a jamais vu ni éprouvé cela. Tel que vous me voyez, j'ai volé aujourd'hui plus haut que nous ne l'avons jamais fait. Loin, par-dessus les plus hauts nuages. Pourtant, on voit. Je veux dire, on peut voir partout. Pour la première fois de ma vie, j'embrasse d'un seul coup d'œil tout notre territoire.
Jonathan Livingstone, Le Goéland, l'histoire d'un jeune goéland que l'amour du vol entraîne dans une quête d'absolu. Vous nous disiez tout à l'heure, Maxime Zucca, que les coucous étaient programmés génétiquement pour ce goût du vol, du voyage lointain, l'appel du grand large. On l'a observé chez d'autres oiseaux, hein, ils ont ça en eux. On l'a vu avec des expériences étonnantes, notamment, hein, qui ont été faites il y a déjà plus d'un siècle, où l'on observait que des petits oiseaux que l'on enfermait dans une cage se mettaient à trépigner un peu, comme si l'appel du vol les démangeait.
C'est ça, ce sont des collectionneurs d'oiseaux, effectivement au 19e siècle, qui avaient remarqué ça, mais sans en tirer plus de conclusions que cela. Et c'est dans les années 60, des ornithologues allemands qui étudiaient une fauvette, une espèce qui s'appelle la fauvette des jardins, qui l'étudiaient pour totalement autre chose, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de la sérendipité.
Sérendipité, oui, cette façon de découvrir au hasard.
Placé au Scrabble.
Ouais.
Et qui ont remarqué que c'est leur fauvette, le mois d'août venu, sautillait toute la nuit dans leur cage. Et se sont interrogés, évidemment. En plus, ils se sont rendus compte que ça durait pendant un mois à peu près. Et l'année suivante, ils ont eu l'idée de mesurer précisément ces sautillements, ces durées de sautillement. Et se sont donc aperçus qu'elles sautillaient environ 10 heures par nuit. Et qu'elle le faisait environ pendant 25 à 30 nuits. Je me souviens plus du chiffre exact. Eh ben, ils ont multiplié, 30 nuits par 10 heures, 300 heures. Ils ont multiplié les 300 heures par, tiens, une fauvette des jardins, ça vole environ à 40 km/h. Et on arrivait à 12 000, si mon calcul est bon. Et c'était exactement la distance à laquelle migraient ces fauvettes des jardins allemandes pour rejoindre leur quartier d'hiver en Afrique du Sud.
Elles avaient en eux la durée de vol, le plan de vol, et enfermées dans leur cage, elles répétaient un peu ce mouvement qu'elles ne pouvaient pas faire.
Exactement,
finalement.
Elles l'exprimaient donc comme si c'était vraiment, pour le coup, des petites machines préprogrammées pour ces premiers vols migratoires. Mais du coup, on comprend que pour ce jeune coucou, ces jeunes fauvettes qui vont partir complètement à l'aventure la première fois, il leur faut un guide. Et là c'est vraiment la génétique. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'en plus, elles sautillent toujours dans la même direction. Ouais. Donc la direction aussi est
imprimée dans leur génome, imprimée. Elles l'ont en elles. Il y a aussi cette expérience faite dans les années 60-70 d'un ornithologue hollandais qui baguait des étourneaux racontés. Ça aussi c'est très étonnant.
Alors voilà, ça c'est aussi intéressant parce que du coup on peut croire ça peut donner l'impression que c'est un petit peu triste, que les oiseaux sont des petits robots préformatés et que ça perd un petit peu sa poésie quand même tout ça. Et donc ces étourneaux qui étaient étudiés par Rodolphe Perdec dans les années 60, il les baguait, il adorait baguer les étourneaux parce que c'était aussi des oiseaux chassés, une espèce gibier. Du coup, il y avait beaucoup plus de probabilité de retrouver des individus bagués ailleurs, morts, mais au moins ça apportait des informations sur leur déplacement. Donc il savait parfaitement que ces étourneaux des Pays-Bas allaient hiverner en Normandie, en Bretagne ou encore Noailles en Angleterre. Et il en a déplacé un millier environ en avion qu'il a relâché en Suisse pour voir comment ils allaient se comporter. Et alors, les jeunes oiseaux ont été repris. Donc repris, c'est quand ils sont tirés à la chasse. Ont été repris principalement en Aquitaine, donc en suivant une distance, une voie de migration exactement parallèle à celle qu'empruntaient les étourneaux du Pays-Bas pour rejoindre la Normandie, de Suisse vers l'Aquitaine, et sur la même distance. Par contre, les adultes, eux, qui avaient connaissance de leur site d'hivernage de l'année précédente, ont corrigé cette déviation, d'accord, et sont remontés vers le nord-ouest et on se retournait en Normandie.
Donc voilà la programmation et en même temps l'apprentissage. Ceux qui étaient uniquement programmés ont été dans la mauvaise direction parce qu'on les avait délocalisés. Ceux qui avaient déjà voyagé se sont dit tiens, on n'est pas au bon endroit et ont su retrouver la bonne direction, même s'il fallait aller dans la direction opposée à l'habitude.
C'est ça.
Incroyable. Nous poursuivons notre voyage dans le sillage des oiseaux migrateurs avec l'ornithologue Maxime Zucca. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac que vous êtes toujours plus nombreux à fréquenter et nous en sommes ravis.
D'où sont tous ces enfants de la plage, lianes agiles, brassant le sable, d'où sortent ces grappes enfiévrées, casseurs d'écume, souffle lié. Là de sa grippe et les autres en cercle, compte les points, les serre de près. La mort, le sable, le cercle éclate et ils repartent le point levé. D'où sont tous ces enfants de la plage? Ont-ils un lit et une table et une chambre pour s'isoler? Des vitres par où? L'enfance va lâcher, où sortent ces briseurs d'écume, mordant le sable et qui repartent le point de vue.
Enfant de la plage, c'était Dominica sur France Inter, le temps d'un bivouac.
On estime que leur départ a lieu une demi-heure après le coucher du soleil. On pense qu'ils migrent de nuit car ce sont de petits oiseaux qui risquent d'être mangés par de plus gros volatiles. Quand ils volent de jour, ils sont vulnérables. De nombreux passereaux poussent de petits cris en vol. Nous pensons que cela leur permet d'éviter les collisions. Il faut dire qu'ils sont des millions à voler dans la nuit noire. C'est fou de se dire que ces oiseaux qu'on entend viennent d'Amérique du Sud. Et vous êtes dans le Minnesota ou à New York, et vous entendez ce flot continu. Les nuits animées, ça fait zip, zip, zip.
C'était l'ornithologue Bill Evans. Nous étions à Ithaca, dans l'état de New York. Avec nous toujours Maxime Zucca, auteur de La migration des oiseaux aux éditions Ouest France. Maxime Zucca, la plupart des oiseaux profitent de la nuit pour migrer ou c'est une exception ?
Non, c'est effectivement le cas de la plupart des oiseaux. Et là, ce qu'on entendait, ça m'évoque quelque chose qu'on n'entend pas que dans l'état de New York, mais qu'on peut avoir vraiment au-dessus de chez nous, au-dessus de Paris, au-dessus de à peu près toute la France dans les mois d'octobre. Et ça, c'est accessible à tout un chacun. On a comme ça des petites nuits de grives qui passent en continu. Et donc, on peut vraiment ressentir cette migration nocturne où des milliers d'oiseaux passent au-dessus de nous toute la nuit.
Qu'est-ce qui explique que ces oiseaux choisissent, en tout cas, soient programmés, hein, on a vu, hein, c'est aussi assez génétique, de voyager la nuit?
Alors, il se trouve que c'est surtout ceux qui font des longues étapes, déjà, qui voyagent la nuit, parce qu'ils peuvent se permettre de dépenser l'énergie qui consiste à s'élever plus haut aussi, du coup. Mais et du coup profiter de températures beaucoup plus faibles la nuit et donc éviter de se surchauffer. L'hyperthermie qui est vraiment le gros risque de ces petits oiseaux qui du coup vont surchauffer et aussi se déshydrater très vite en vol. Donc voler par temps frais, c'est assez avantageux à ce niveau-là.
À quelle altitude ils volent ? Parce qu'on imagine qu'il fait toujours frais là où ils sont, c'est pas le cas ?
En fait, c'est très variable. Ceux qui vont un peu loin, ceux qui font des déplacements sur quelques centaines de kilomètres, ils restent en dessous de 1000 mètres. Et ceux qui font des déplacements d'une nuit complète, n'hésitent pas à monter à 3-4 kilomètres.
3-4 kilomètres d'altitude. Ouais.
Hein, et les records, c'est presque 10 kilomètres. Hein. Des signes ont été vus à pas loin de 10 000 mètres d'altitude.
Donc on peut voir par le hublot d'un avion de ligne un oiseau quand on est à hauteur normale de 10
kilomètres. C'est rarissime, mais ça peut arriver. Ouais. Mais effectivement, là, c'est 3-4 000 mètres, on a une grande quantité d'oiseaux. Et ce qu'on entend au-dessus de nous, voilà, c'est que ça peut être quelques centaines de mètres. Mais donc effectivement, il y a moins de prédation. Bon, c'est une des raisons. Donc cette hyperthermie, etc. Et puis aussi, les oiseaux peuvent plus facilement... Le vent est moins variable la nuit que le jour. Donc, et ils sélectionnent plus facilement une altitude avec un vent qui leur est favorable la nuit. Ils perdent aussi moins de temps. Ils migrent à une période, à un moment dans laquelle ils ne sont pas en phase d'alimentation. Et ils vont arriver au petit matin parfaitement pour se nourrir.
Ils volent, ils peuvent voler 10 heures d'affilée toute la nuit. Est-ce qu'ils peuvent dormir en volant ?
Alors ceux-là qui font juste une étape nocturne, a priori on ne pense pas qu'ils dorment ou qu'ils reposent un tout petit peu leur hémisphère cérébral. Mais c'est un champ de recherche qui est encore très mal connu.
Ouais.
On sait que certains oiseaux dorment en volant et il y en a un qui est très fréquent autour de nous là en ce moment, c'est les martinets, le martinet noir. Alors lui, c'est un oiseau qui vole extrêmement bien. Il a d'ailleurs des pattes tellement rikiki lorsqu'il se pose au sol, il n'arrive pas à redémarrer. Donc lui, sa vie, c'est en vol. Il s'accouple en vol et donc il dort en vol. Il se pose que pour couver ses œufs.
Mais ça paraît hyper dangereux de voler s'il y a un obstacle, s'il y a un prédateur. Enfin, c'est comme rouler de nuit les yeux fermés. Ça paraît incroyable.
Sauf que les martinets, donc, ils s'élèvent à plusieurs milliers de mètres également pour dormir. Et certains oiseaux migrateurs, et notamment ceux qui font de très longs vols. Et alors ça peut être le cas de certains oiseaux qu'on appelle les limicoles, alors les bégassos, les barges, les courlis, qui volent sur plusieurs jours d'affilée. Le record, c'est, il y a quand même une espèce, la barge rousse, qui peut voler 10 jours sans se poser, 10 jours des nuits de suite, pour faire le vol de l'Alaska jusqu'à la Nouvelle-Zélande, un grand record. Ouais. Et là, celles-ci, on est à peu près certain qu'elles ont un sommeil mono-hémisphérique, un peu à la manière des dauphins, par exemple, qui vont dormir, mais quand même venir respirer à la surface en dormant.
C'est-à-dire qu'un seul des deux hémisphères serait endormi pendant que l'autre veille. Donc des choses que nous, on a du mal à se figurer parce qu'on n'en est pas capable.
On ne sait pas bien
comment ils font. Ceux qui volent la nuit, du coup, pour se repérer, ils utilisent les étoiles, les constellations ?
Ils utilisent les étoiles s'ils les voient. Parce que même parfois, il y a des nuages à très haute altitude. A priori, c'est principalement c'est même certain, les étoiles qui sont autour de l'étoile polaire, pas uniquement l'étoile polaire elle-même, mais tout le groupe d'étoiles qui représente le centre de rotation de l'hémisphère nocturne. Donc, il va leur donner le nord, donc ça va les aider. Mais les oiseaux n'utilisent pas que les étoiles ou le soleil, déjà du fait des nuits nuageuses, pour s'orienter, mais ils utilisent aussi beaucoup le champ magnétique, quelque chose qui nous est, nous, complètement étranger. Mais les oiseaux voient l'inclinaison des lignes de champ magnétique, c'est-à-dire l'angle auquel qu'ont les lignes de champ par rapport à la surface terrestre.
Alors ça, vous le dites très vite, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que là encore, un truc que nous ne percevons absolument pas, le champ magnétique terrestre, qui a une orientation, quand on a une boussole, on voit dans quel sens ça va, eux voient ces lignes de champ magnétique. Ils ont la boussole intégrée dans leur regard.
On le suppose parce qu'ils ont des capteurs, des récepteurs qui sont des photopigments dans la rétine. Et qui captent, donc ce sont des cryptochromes, qui envoient un signal à un nerf qui lui-même le transmet au cerveau, donc de la même manière que notre rétine reçoit des signaux de vision et les transmet à notre cerveau. Donc ouais. On imagine qu'ils doivent voir quelque chose, mais on est incapable de se le représenter précisément.
Aussi bien pour le champ magnétique que pour les étoiles, on a fait des expériences avec des oiseaux, on les a mis dans des champs magnétiques, on les a mis dans des planétariums en orientant les étoiles au-dessus d'eux pour voir... comment ça se passait ?
Exactement. En utilisant la propriété dont on parlait tout à l'heure de ces oiseaux qui s'agitent dans leur cage et qui migrent en plus et qui s'orientent préférentiellement dans un côté de la cage, des cages en forme d'entonnoir, on leur met. Et donc on les place sous un ciel étoilé dans des conditions sinon identiques par ailleurs à tout ce qu'ils pourraient rencontrer à l'extérieur. Et on fait varier en captivité donc le planétarium au-dessus. On inverse complètement le sens du ciel et les oiseaux se tournent à 180 degrés dans leur cage.
Ça devait être une expérience incroyable. On a fait ça dans un vrai planétarium.
Voilà, c'était des Américains qui avaient fait ça dans les années 60-70 sur des juncos ardoisés, les premiers oiseaux à avoir été testés comme cela. Et oui, effectivement, ça a été un peu révolutionnaire comme découverte.
Ouais. Je vous propose d'écouter le récit du voyage d'un rossignol par Jacques Trémolin, chroniqueur animalier qui officiait sur cette antenne en 1983.
Là, quand il voit le mont Cameroun, notre rossignol tourne à gauche et file vers l'est. Et en avant, les petites ailes, il va traverser toute l'Afrique d'ouest en est. Il va voler jusqu'au Grand Lac, vous savez, le Tanganyika, le Nyassa, le Victoria. Ouf, il est arrivé, mais alors là, il y a un truc effarant, c'est qu'il va retrouver sa petite copine. Elle n'a pas voyagé avec lui et il se retrouve quand même. Est-ce qu'ils sont donné rendez-vous au troisième baobab à gauche, à côté du lac Tanganyika? On ne sait pas. Mais il se retrouve. Et s'il est célibataire, il se fera une petite copine, là. Mais en tout bien, tout honneur. Ils sont fiancés, c'est la grande amour, mais c'est tout, rien ne se passe. Et ils mangent des moustiques et tout va bien. Puis, les semaines passent, alors ils vont repartir. Toujours de nuit et à deux, ils vont descendre le Nil jusqu'à Alexandrie, aux embouchures du Nil, là où il y a plein de moustiques. Arrêt buffet, puis ils repartent vers l'ouest, longe la côte de Libye, la côte de Tunisie, ils arrivent en Tunisie. Là, il dit à sa petite copine, attends-moi, moi je vais m'occuper du buisson. Elle va rester quelques jours en Tunisie, à se reposer, à faire des courses, je sais pas quoi. Et puis lui, il saute d'île en île, Sardaigne, Sicile, Corse, la France, et il arrive enfin, en avril-mai, dans son buisson, et vous l'entendrez chanter ce soir-là. Ce qui chante, on a beaucoup discuté sur ce que chantait le rossignol, je suis convaincu que sa première chanson... Eh bien, il nous raconte son voyage.
Le voyage du rossignol conté par Jacques Trémolin. Nous étions en 1983, l'après-midi, sur France Inter. Une réaction, Maxime Zouka ?
Alors, on pourrait raconter beaucoup de choses à partir de ce que dit Jacques Trémolin. Comme on parlait juste avant, nous parlions du champ magnétique, il y a une expérience assez intéressante, assez incroyable qui a été faite sur les rossignols, justement, qui vont traverser le long du Nil ou autre, le Sahara, et qui ne savent pas, pareil. Alors déjà, les oiseaux, la première année, ne savent pas où ils vont, mais en plus, ils n'ont aucune possibilité de connaître les obstacles qu'ils vont rencontrer. Et cette expérience a montré que des rossignols que l'on soumettait, toujours dans ces petites cages, à un champ magnétique correspondant à celui du nord de l'Égypte, s'engraissaient beaucoup plus rapidement avec les mêmes quantités de nourriture qui leur étaient données dans des dispositifs expérimentaux, s'engraissaient beaucoup plus rapidement que les rossignols soumis au champ magnétique du nord de l'Europe où ils nichaient.
Donc là, c'est plus une question d'orientation, c'est une question d'intensité du champ. C'est-à-dire que non seulement ils voient dans quel sens va le champ magnétique, mais aussi l'intensité du champ est associée à un lieu, donc à un comportement à avoir.
Effectivement, là, c'était l'intensité du champ magnétique qui était utilisée. Mais tout ça pour dire qu'en plus, le champ magnétique, en plus de les aider à s'orienter, il sert vraiment de panneaux de signalisation en route, c'est ça. Et alors, nos petits rossignols, ils migrent quand même tout seuls. Alors là, c'est vrai que c'est joli de les imaginer migrer en couple, mais c'est très rare. Par contre, ils vont se retrouver. sur les sites de nidification parce que ils ont le souvenir exact de l'endroit dont ils sont partis et donc ils retrouvent le territoire identique à l'année précédente et s'ils ont tous les deux survécu, le couple reste fréquemment fidèle.
Ouais, c'était raconté comme ça, hein. Ils se retrouvaient le mâle et la femelle dans le récit de Jacques Trémolin, mais il y a cette idée de mémoire là encore qui est assez intéressante. Parmi toutes ces capacités qui nous laissent quoi, il y a aussi la mémoire de ces oiseaux qui semblent retenir des trajectoires et même améliorer le chemin, le parcours d'un voyage sur l'autre en fonction des endroits où ça s'est plus ou moins bien passé.
Ils vont retenir les sites sur lesquels ils ont préféré leur halte de touristes, comme vous et moi.
Oui mais moi, je n'aurais pas cette mémoire pour 12
mais
ou 13 000 kilomètres.
Voilà, vous ne sauriez pas y retourner vous-même sans l'aide d'un... Effectivement, les oiseaux migrateurs ont une très bonne mémoire sur une durée d'environ un an, un petit peu plus d'un an. Donc exactement celle qui leur est nécessaire. Ça ne va pas bien au-delà d'après les expériences faites, mais... Ils sélectionnent clairement les sites qui ont été les plus avantageux, sur lesquels ils ont pu se nourrir le plus vite et donc repartir le mieux. Et effectivement, on voit souvent, maintenant qu'on peut suivre des migrations précises, les premières années, des trajectoires, des parcours très chaotiques, et les années suivantes, des choses optimisées, rectilignes, avec trois étapes extrêmement efficace et c'est tout et voilà plus de gâchis.
Il se repère aussi, alors on a dit le champ magnétique, les étoiles, le soleil, est-ce qu'ils se repèrent aussi en fonction du paysage? Est-ce qu'ils ont une mémoire du paysage?
Ben une fois arrivés près de l'endroit, il est certain que le paysage joue un rôle, notamment pour retrouver les zones d'alimentation préférées. Mais il est très difficile de retenir le paysage tout au long de la migration, surtout quand on migre la nuit et très haut. Donc le paysage, il va jouer un rôle effectivement à l'approche. Il va jouer un rôle aussi autour du territoire de nidification, du territoire d'hivernage. Mais il joue un rôle à petite échelle.
Inouï, tout ce qu'on peut apprendre en regardant les oiseaux, c'est notamment en observant des oiseaux, les pinsons des îles Galapagos, que Darwin a élaboré sa théorie de l'évolution. Darwin avait raison, Féloche sur France Inter.
Darwin avait raison, je ne suis plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison. À la branche, suspendu aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin avait raison. Darwin avait raison. Féloche est un poilu qui jette son dévolu sur la femme à deux têtes. Hier j'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain. Darwin avait raison. Darwin avait raison, j'ai quelque peu changé. Changé de religion, lunettes et pantalons. J'ai travaillé au charme, fait la révolution. Fait le chat, pris le zar. Darwin avait raison.
Balbuzard passé tout à l'heure. Bah, on attend un quart d'heure, une demi-heure, il n'y a rien. Au bout d'un moment, on s'assoupit un peu, puis il y a quelqu'un qui dit « Balbu !» Et là, gling, les yeux s'agrandissent, on prend les jumelles, on prend le téléobjectif, et puis on voit une bête magnifique.
Là, il y a deux serins qui sont en train de passer, là. À droite, à droite, à droite. Alors ici, on les voit de près lorsqu'il y a un vent du nord, c'est-à-dire un vent qui est contraire à leur migration. Les oiseaux vont du sud vers le nord, et ils vont rencontrer ce vent, ils vont vouloir se protéger de ce vent. Et ils vont passer très près de nous, très près des sols.
C'était Martin Montauban, responsable de l'observation sur le col de l'Escrinet en Ardèche. Invité du temps d'un bivouac, Maxime Zucca, auteur de La migration des oiseaux aux éditions Ouest France. Les rapaces migrent aussi, Maxime Zucca?
Les rapaces migrent aussi et c'est l'une des migrations les plus spectaculaires. Ils migrent de jour, pour le coup,
ouais.
Car les rapaces vont bénéficier de courants ascendants thermiques chauds pour s'élever haut dans le ciel et faire de comme à la manière d'un parapentiste et se laisser descendre jusqu'au courant thermique suivant. Tant qu'à faire, autant ne pas dépenser trop d'énergie. Et ils le font parfois lorsqu'il y a une bonne thermique, une bonne ascendance, par plusieurs dizaines ensemble. Et on peut avoir des vols de dizaines, voire de centaines de rapaces et qui vont passer en plus le long de couloirs privilégiés dans lesquels ces thermiques sont plus abondants, les vallées, les flancs de falaises de montagnes. Alors le col de l'Escrinet dont il est question, c'est l'un des hauts lieux d'observation des rapaces. Et là, on peut tout au long de l'été se promener en France à partir du mois d'août jusqu'en octobre à travers les différents sites de suivi des oiseaux migrateurs comme ça. Alors il y a l'Escrinet. Après, on peut, si vous êtes dans l'Aude, le roc de Cognac et Gruissant est excellent. Il y a les plateaux autour d'Aisne dans les Pyrénées orientales, ou alors plus à l'ouest, les cols pyrénéens, notamment le col d'Orgambidechka, et c'est le meilleur site d'observation des migrations de rapaces en France.
Et alors, c'est encore un peu tôt, c'est-à-dire qu'il vaut mieux attendre août pour aller les observer, ou on peut déjà observer de jolies choses si on y est en ce moment?
D'ici une semaine à 10 jours, ça va vraiment commencer pour une espèce qui est le milan noir.
Ouais.
Et ensuite, la migration du milan noir s'étale, le pic est vraiment début août, fin juillet, début août. Et ensuite, on va avoir un autre grand pic à la fin du mois d'août, début septembre, qui est celui des bondrées, qui est très spectaculaire. Mais tout le long du mois d'août, vous aurez régulièrement des oiseaux migrateurs en nombre.
Et en les voyant passer, en les observant, vous pourrez vous dire qu'en plus, eux sont particulièrement résistants, si j'ai bien compris, à la migration. C'est-à-dire que chez tous les oiseaux, on l'a pas encore dit, on a dit qu'ils avaient énormément de potentiel, de capacité pour se repérer. Mais ça reste quand même une épreuve et il y a des pertes hein, pour ces oiseaux qui entreprennent ces longs voyages. Les rapaces, relativement peu, mais sur d'autres espèces, ça peut être de gros effectifs qui disparaissent lors de ces migrations.
C'est vrai que des petits oiseaux, des fauvettes, des pouillots qui font quelques 8, 10 grammes, 15 grammes, on a la migration est la phase du cycle de vie pendant laquelle la mortalité est la plus forte. Il y a même une espèce chez laquelle on a mesuré que presque 80% de la mortalité annuelle se passait durant la migration.
Ça ne veut pas dire que 80% des individus disparaissent.
Exactement.
Ça veut dire que parmi ceux qui meurent, 80% c'est pendant la migration, ce qui est quand même différent.
Mais on a un peu du mal à quantifier la mortalité exacte, pour tout vous dire.
Ouais.
Voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup de mortalité durant cette phase, mais si ça reste sélectionné, c'est que c'est quand même plus avantageux que de rester. Les rapaces ont une stratégie de reproduction qui consiste à faire peu de petits et à survivre longtemps. Et leur migration, du coup, effectivement, ils se dépensent très peu, ils dépensent très peu d'énergie. Et c'est d'ailleurs ça le problème avec les éoliennes, un petit peu, c'est que des rapaces qui meurent en nombre sur un champ d'éolien qui est placé sur un couloir migratoire, ça va avoir des conséquences plus importantes en termes de dynamique de population de ces rapaces que de la mortalité de petits passereaux locaux.
Voilà. Ouais. C'est un vrai souci, ça, les éoliennes, pour la migration des oiseaux, ou c'est anecdotique?
A priori, certaines éoliennes, quand elles sont vraiment mal placées sur des couloirs de migration ou à côté de l'aire de reproduction de certains rapaces, c'est un vrai souci. Ailleurs, quand elles sont placées en plaine dans les plaines céréalières, c'est plus anecdotique.
D'accord. Donc, il faudrait davantage prendre en considération les couloirs de migration.
Ça l'est, hein. C'est fait maintenant, c'est très bien fait.
C'est fait de plus en plus. Je vous présente Hugo Struna, nouveau chroniqueur du Temps d'un Bivouac. Bonjour Hugo.
Bonjour Daniel.
Vous êtes journaliste à Vigie Nature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, dont nous sommes partenaires. Et toutes les semaines, vous nous faites écouter des sons enregistrés par les scientifiques du Muséum pour leurs études. Aujourd'hui, nous partons au cœur de la forêt tropicale.
On raconte en Colombie qu'un enfant avec un grand chapeau serait à l'origine du chant de l'Amazonie. On l'appelle l'esprit de la forêt. Mais ce chef d'orchestre n'est pas toujours bienveillant, il s'amuserait même à détourner de leur chemin les plus téméraires. Voici ce que le grand-père de Juan Ulloa lui a raconté quand il était enfant. Aujourd'hui, le jeune Colombien est docteur en écho-acoustique au Muséum d'Histoire Naturelle. Son travail, comprendre les 50 nuances de sons qui agitent la forêt amazonienne.
Et alors là, ce sont des oiseaux qu'on entend en ce moment?
Oui, c'est un regroupement de paille-paillot, les capitaines de la forêt, dit-on au Brésil. On l'entend partout, tout le temps, il est vraiment la voix de cette forêt amazonienne. C'est un joli chant très coloré que vous avez déjà dû entendre, j'imagine, Maxime Zucca. Alors que paradoxalement, c'est un tout petit oiseau, tout gris, qui ne paye vraiment pas de mine.
Alors grâce au paillot, on peut se repérer dans la forêt ?
Oui, comme il se regroupe toujours au même endroit, il crée des espèces de points de repère sonores dans l'espace, un très bon moyen pour s'orienter selon Juan Ulloa.
Mais ces sons résonnent surtout à l'oreille des autres animaux. On imagine qu'on n'est pas les seuls à les entendre.
Oui, vous êtes tous déjà allés dans une forêt, on ne voit pas grand-chose. Dans les forêts tropicales, n'en parlons même pas. C'est pour cette raison que les êtres vivants communiquent essentiellement par les sons, chants, stridulations, sifflements et autres hurlements.
Là, rassurez-moi, ça n'est plus un oiseau qu'on est en train d'entendre.
Le singe hurleur, vous avez dû le reconnaître, c'est toujours très impressionnant. Alors imaginez sur place, d'après Juan Ulloa, lorsqu'il se met à crier à 4h du matin, alors que tu dors tranquillement dans ton hamac, le réveil est pour le moins brutal. Et vous saviez quoi ? Ces bêtes ont même inspiré Steven Spielberg pour imaginer les cris de dinosaures dans Jurassic Park.
Bon, c'est vrai qu'il a quelque chose d'assez effrayant. Le singe hurleur, on imagine qu'on n'emmène pas large quand on l'entend en pleine forêt amazonienne.
Pareil, oui.
Et quel est le travail d'un écho-acousticien alors ?
Alors contrairement à la bioacoustique qui se focalise sur les sons d'une espèce en particulier, le cri des baleines, des manchots, le chant des oiseaux, l'écho-acoustique, elle, se penche sur tout un paysage sonore. Juan Ulloa se rend régulièrement en forêt pour poser des enregistreurs qui captent des sons ambiants pendant des mois, voire des années. Et comme chaque espèce possède sa propre signature acoustique, on peut savoir en décortiquant les différentes ondes quels animaux sont présents.
Alors comment font les chercheurs pour s'y retrouver dans ce tintamarre, Hugo ?
Il y a plusieurs méthodes, un exemple. Là, nous sommes en pleine nuit, plus de paille-paillot ni de singe hurleur, mais des criquets, sauterelles et amphibiens. Et voici le même environnement après filtrage. Vous avez entendu, c'est très différent. En ajoutant un filtre de fréquence, Juan Ulloa a pu isoler cet amphibien qu'on entend, qui émet dans une gamme de fréquences qui lui est propre, le Leptodactylus pentadactylus, c'est un très joli crapaud, allez voir sur internet, qui annonce la saison des pluies. Il ne chante pas si mal pourtant.
Et alors les crapauds peuvent faire preuve de comportement pas très catholique, me dites-vous.
Et c'est d'ailleurs pendant cette saison des pluies que Juan Ulloa a assisté à une scène incroyable. Voilà ce qu'il a enregistré près d'une mare à la station de recherche de Nourargue en Guyane. C'est un bruit très désagréable. Dites-vous que sur place, c'est carrément insupportable.
C'est pire.
Les scientifiques sont obligés de se mettre des bouchons dans les oreilles.
Ah oui ?
Une idée de ce que c'est, non ?
Je sais pas, des boucheviers.
Il s'agit d'une orgie de crapauds, rien de moins. L'événement dure entre 24 et 70 heures, comme ça en continu, tous les ans pendant la saison des pluies. Les coïts de 14 espèces résonnent alors dans toute la forêt. Ce sont les crapauds dits à reproduction explosive, c'est bien le cas de le dire. Pas pudique l'animal.
Oui. Et d'une manière générale, tous ces sons donnent une idée de la bonne santé d'un environnement, au-delà de réveiller le campeur.
Oui, l'écho-acoustique, une discipline toute jeune et très efficace pour évaluer la biodiversité d'un environnement, pour suivre son évolution de manière très discrète. L'esprit de la forêt dont parlait le grand-père de Juan Ulloa est le cœur battant du vivant amazonien. Et comme vous pouvez l'imaginer, plus une forêt est bruyante, et plus elle est en bonne santé.
Merci Hugo Struna et à la semaine prochaine. Ce son que l'on entend là, vous le reconnaissez, Maxime Zucca, là c'est un oiseau. On est revenu dans le monde des oiseaux.
Toujours dans la forêt amazonienne.
Ouais, c'est l'appel du toucan, effectivement, que j'ai entendu plein de fois en Amérique du Sud.
Lui, il ne migre pas. Finalement, les oiseaux qui sont en forêt amazonienne, eux, les saisons changent peu et ils restent sur place, ils bougent peu.
La plupart, a priori, bougent peu. C'est encore assez mal connu, mais la plupart bougent peu. Par contre, on a quand même des oiseaux d'Amérique du Sud, par exemple, du Chili ou des zones tempérées de l'Amérique du Sud, qui vont migrer vers le nord, pour le coup, au lieu de migrer vers le sud, par rapport à leur site de reproduction, et aller hiverner autour de la forêt amazonienne, puis revenir dans l'autre sens.
Est-ce qu'on se sert aussi d'enregistrements sonores tels que ceux que l'on a pu entendre pour suivre les oiseaux et mieux comprendre leur trajet de migration ?
Oui, de plus en plus d'ailleurs, d'ornithologues s'intéressent à la bioacoustique, à l'écho-acoustique et à essayer de comprendre comment même mettre en place des dispositifs de suivi un petit peu automatisés avec des micros placés un petit peu partout, une sorte de vigimicro, pour pouvoir quantifier la migration nocturne, notamment au-dessus de chez nous. En tout cas, c'est quelque chose qui est très stimulant parce qu'on peut mettre un micro parabolique au-dessus de son toit n'importe où et pendant toute une nuit capter tous les oiseaux qui vont passer en criant dans le ciel au-dessus de notre maison. Donc là, c'est quelque chose qui est fait de manière assez fréquente, mais pas encore beaucoup à des fins de recherche.
Ouais. Alors, Maxime Zouka, vous êtes spécialiste des oiseaux, hein, vous êtes ornithologue, donc évidemment, on parle de ces oiseaux migrateurs avec vous, mais est-ce que ce sont vraiment les champions du monde de la migration? Champions du monde, on n'ose plus employer ce terme en ce moment. ou est-ce qu'il y a d'autres espèces animales qui, elles aussi, se défendent bien dans ce domaine?
Oui, il y en a d'autres qui se défendent bien, notamment rapportées à leur taille, puisqu'il y a des papillons. Il y a le célèbre monarque en Amérique du Nord qui fait plusieurs milliers de kilomètres.
Avec les mêmes outils, les mêmes techniques, ils se repèrent de la même manière que les oiseaux migrateurs?
A priori, en tout cas, tous ceux qui ont été étudiés pour l'instant utilisent aussi le champ magnétique pour naviguer et pour s'orienter. Ce soit donc les papillons, les libellules, il y a des libellules qui traversent l'océan Indien pour aller hiverner en Afrique en venant d'Inde. Chez nous, on a plusieurs papillons et libellules qui migrent beaucoup. Puis évidemment, on a aussi les mammifères marins, les baleines ou alors les tortues. On a beaucoup d'animaux qui migrent et qui utilisent tous ce champ magnétique.
Et quand ces insectes migrateurs croisent la route d'oiseaux migrateurs, c'est le petit déjeuner qui est servi.
C'est ça, on a des faucons de l'amour qui migrent un petit peu en suivant ces libellules qui traversent l'océan Indien d'ailleurs. Puis on a aussi des oiseaux comme d'autres faucons, notamment les faucons d'Éléonore, qui, eux, attendent les petits passereaux migrateurs au-dessus de la mer Méditerranée et qui en font aussi leur petit déjeuner.
Suite et fin de nos explorations du monde des oiseaux migrateurs. On s'intéressera aux menaces qui pèsent sur eux dans un instant. Et puis, Maxime Zouka, vous répondrez aux questions des auditeurs qui sont arrivées pour vous sur franceinter.fr. C'était Hills, Today is the Day sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Oh, on entend bien un peu de vélo, ça, super. Ça, c'est un... Oh, il est là, et en plus il est là. Donc là on est à 7 grammes, 8 grammes. Puis la bouscarde qui chante derrière nous en plus. Ça, c'est sympa. Ça, c'est un des oiseaux les plus faciles à reconnaître au niveau chant. C'est deux notes. Voilà. Autrefois, dans les campagnes, on l'appelait le compteur d'écus, parce qu'on avait l'impression qu'il compte des pièces, des écus d'or, hein, tip-tiap, tip-tiap, tip-tiap. Et c'est un oiseau qui est facile à reconnaître. Souvent, le chant des oiseaux est très difficile pour les néophytes, les visiteurs. Ils ont du mal à reconnaître les chants, parce qu'ils ont plein de chants, ils entendent plein de chants dans la nature, ils ne les différencient pas, alors qu'il faut commencer par les chants les plus simples. comme le coucou, le pouillot véloce. Puis en plus, comme les oiseaux sont migrateurs, en hiver, ils sont partis, vous n'entendez plus leur chant. Mais l'oiseau fait pareil, hein, quand il revient de migration, il retrouve son chant. Il commence à chanter mal, il fait un peu des fausses notes, puis après, petit à petit, son chant devient plus juste. Et nous, notre oreille s'habitue de nouveau au chant que l'on entend.
De nouveau, Philippe Carhuet, toujours en baie de Somme, en compagnie du pouillot véloce, cette fois-ci. Maxime Zouka, c'est vrai, certains oiseaux migrateurs ont besoin de réapprendre leur chant à leur retour. Leur voyage leur a fait oublier un petit peu la justesse de leur chant.
Oui et non. Ceux qu'on voit qui réapprennent le chant, ce sont souvent les oiseaux nés l'année précédente qui vont se reproduire pour la première fois. Et donc, du coup, qui ont besoin de l'apprendre et qui apprennent en écoutant le chant des autres, beaucoup. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément d'oiseaux qui vont ajouter à leur répertoire vocal des chants qu'ils ont entendus pendant leur hivernage en Afrique. Donc les rousserolles, verderolles, par exemple, nous ramènent plein de souvenirs de voyages africains et on les entend émettre quelques petites portions de bribes de chants d'oiseaux africains qu'on ne connaît absolument pas dans les marais à côté de Paris, par exemple.
Oui, elles imitent des oiseaux locaux et elles reviennent avec leurs chants.
Plus elles en emmagasinent dans leur répertoire, plus, a priori, elles sont attirantes pour les femelles, les mâles qui chantent en tout cas. Ouais.
Alors, est-ce que les activités humaines et le réchauffement climatique ont une influence sur la migration de ces oiseaux? Est-ce qu'on l'observe au cours de ces dernières années?
Vaste question. Évidemment, déjà, simplement l'état de santé des populations d'oiseaux, dès lors qu'il y a moins d'habitats naturels, forcément, mécaniquement, il y a moins d'individus, puisque soit l'urbain utilise de plus en plus d'espace, et puis l'agricole intensif aussi. Donc l'idée, c'est d'arriver déjà à mieux partager l'espace, à utiliser un petit peu moins de... à moins intensifier globalement notre environnement. Et le changement climatique est en train déjà d'avoir des conséquences directes, notamment sur les habitats aussi, notamment en Afrique. Les scénarios sont pas extrêmement positifs, notamment en Afrique de l'Est, en termes d'évolution des niches climatiques. Au contraire, on a des oiseaux qui vont en bénéficier, qui vont voir leur niche climatique, leur optimum augmenter en taille.
Ça va modifier la répartition, mais certains tireront leur
épingle du jeu.
Gagnant. Des questions d'auditeurs qui sont arrivées pour vous. Lucas qui vous demande, est-ce que le changement du champ magnétique aura un effet sur la migration des oiseaux? Alors, il est bien renseigné, Lucas, parce qu'effectivement, le champ magnétique de la Terre évolue. Il s'est inversé plusieurs fois avec le nord magnétique qui était au pôle sud et inversement. Si ça arrivait de nouveau, comment s'en sortiraient les oiseaux migrateurs?
Donc c'est déjà arrivé. A priori, les oiseaux migrateurs s'en sont sortis parce qu'ils vont utiliser l'intensité donc du champ magnétique qui ne va pas varier avec cette inversion des pôles. Et de même, l'angle d'inclinaison ne va pas changer. Ce qui va changer, ce qui change en fait en continu, puisque le pôle nord magnétique se déplace un tout petit peu chaque année par rapport... Et du coup, cet angle qu'on appelle la déclinaison, qui est l'angle entre le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique, varie d'une année à l'autre. Peut-être que les oiseaux l'utilisent, mais on ne sait pas encore comment. A priori, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de grands changements du fait que ce soit déjà produit dans le passé. Mmh.
En fait, ça arrive suffisamment lentement pour que les oiseaux, de génération en génération, s'adaptent à ces modifications.
Mais ce qui est certain, c'est que ce sera quelque chose de passionnant à étudier.
Ouais. Alors, on ne sera peut-être plus là pour le voir, hein, mais en tout cas pour vos successeurs, quand le champ magnétique s'inversera, ce sera intéressant à étudier. Gilles vous demande, il y a quelques années, j'avais chez moi en Bretagne une centaine d'hirondelles et n'en ai qu'une dizaine cette année. Dans certaines maisons, rien n'est arrivé. Par contre, il y a ici des nids avec des petits mi-juillet, donc assez tard. Alors, il demande, est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que c'est durable ce changement qu'il observe dans son jardin?
Les deux. Alors, les hirondelles, malheureusement, se cassent la figure. On est sur un déclin de 40 à 50% au cours des 20 dernières années. C'est vraiment triste. Alors, il y a plein de raisons à cela. La disparition des fermes, avec une agriculture maintenant... avec des surfaces de plus en plus grandes, donc moins d'agriculteurs, donc moins de fermes, moins de gîtes pour les hirondelles. Des pesticides qui ont un impact sur les proies d'hirondelles directes, ça c'est évident. Des problèmes en Afrique aussi. Et ce qui s'est passé ce printemps, en plus de cette tendance globale, c'est qu'on a eu des vents du Nord pendant un mois et demi en Afrique du Nord, des tempêtes de sable à un rythme particulièrement élevé, et les hirondelles migrent de jour. Ça fait partie des oiseaux qui migrent jamais la nuit ou presque. Et elles migrent bas en plus, elles ne montent pas en altitude parce qu'elles s'alimentent en migrant. Elles vont pas s'arrêter longuement, donc elles migrent bas, elles capturent des petits mouchons, des petits insectes en volant, et des tempêtes de sable peuvent être extrêmement meurtrières, et là il y en a eu plusieurs, et on suppose vraiment que c'est ça, parce qu'il y a eu beaucoup moins d'hirondelles qu'attendues arriver, et celles qui sont arrivées beaucoup plus tard. Donc c'est aussi pour ça que ce monsieur observe des hirondelles au nid beaucoup plus tard que d'habitude.
Ah oui, donc ces observations sont très justes.
Elles sont très justes.
D'ailleurs, au muséum, il existe des programmes d'observation, hein, je crois le nom de ce programme, je l'ai plus sous les yeux. Le stock, voilà. Par Viginature, et qui invite tout un chacun à observer les populations d'oiseaux et à en faire part aux scientifiques.
Celui-ci, il n'est pas pour tout un chacun parce qu'il nécessite quand même de connaître les champs d'oiseaux. Donc
d'accord,
il faut un certain niveau. Le stock, ça veut dire le suivi temporel des oiseaux communs, et c'est un programme extrêmement précieux qui nous permet de connaître l'évolution des populations d'oiseaux.
Ouais. Quelques noms de populations particulièrement menacées en France ?
Les hirondelles en sont une des principales. Ensuite, ouais, on a par exemple, on parle des changements climatiques, des oiseaux dont l'optimum thermique est assez nordique, comme le Pouillot Phytis par exemple, décline beaucoup. Le gobe-mouche gris, la mésange boréale, des oiseaux comme ça, des forêts fraîches, sont celles qui disparaissent, qui déclinent le plus. Mmh. La tourterelle des bois, le bruant ortolan, pour d'autres raisons, plutôt liées à la chasse.
Ouais. Dont Mitterrand était très friand, d'ailleurs. Merci beaucoup, Maxime Zucca. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel, aux éditions Ouest France. Et puis en deuxième heure, nous allons faire connaissance avec deux autres drôles d'oiseaux, Nance et Moots. Ce sont les deux globetrotteurs de la série Nus et culottés de France 5, deux globetrotteurs très attendrissants et très déjantés en même temps. Les nouveaux épisodes de leur série sont actuellement diffusés. C'est au Québec qu'il nous emmène cet été, avec toujours la même règle du jeu, partir avec un objectif à accomplir et sans un sou en poche, et même sans poche du tout, puisqu'ils commencent leur voyage en tenue d'Adam. Ils vont nous raconter comment leur est venue cette drôle d'idée dans un instant. Ce sera après le flash.